et philosophe public est le nom d'un collectif composé de professeurs de philosophie, créé en décembre 2015.
Notre objectif est de proposer une forme d'engagement politique.
En réaction aux diverses crises que traverse notre société et suite aux événements insupportables de ces derniers mois.
À notre échelle, et face aux passions tristes du ressentiment, de la peur et de la haine, nous souhaitons participer à la construction de nouvelles façons d'être citoyens, de vivre ensemble et de vivre en paix.
À l'écoute des autres, ouvert à la diversité des paroles, des points de vue et des propositions, nous voudrions nous retrouver là où la philosophie n'est pas nécessairement attendue.
Loin de l'entre-soi, nous sommes disposés à intervenir dans la rue, dans les centres sociaux, dans tous les lieux où le débat peut exister.
Tous les mois, nous nous retrouverons sur Radio Grenouille pour témoigner de ces échanges, les prolonger et continuer à penser ensemble.
Eh bien, bonjour à tous pour l'émission d'aujourd'hui avec les philosophes publics. Nous avons Marc, Hélène, Maïssa, Charlotte et moi-même, Ronald. Et l'objet de l'émission d'aujourd'hui est la laïcité. Voilà. Donc, à propos de cette idée, nous avons longuement débattu entre nous. Et je voudrais, en quelques mots, avant de passer la parole à mes camarades ici présents, vous dire dans quel état d'esprit nous débattons de ce genre de concept. Évidemment, les philosophes publics, c'est un collectif dans lequel la discussion est reine. Et pour cela, je voudrais commencer à interroger l'une d'entre nous qui va lancer finalement la réflexion en essayant de comprendre un petit peu mieux ou de définir un petit peu mieux le rapport qu'il peut y avoir entre la laïcité et la religion. Maïssa, si tu veux bien commencer à nous donner quelques idées sur cette terrible opposition sur laquelle, évidemment, il y a beaucoup de choses à dire.
Je ne vais pas être toute seule.
Bien sûr, mais je serai là pour t'interrompre et pour faire tourner
Super.
La parole.
D'accord. Alors peut-être qu'on peut commencer par une question. Est-ce que la laïcité est est hostile, menaçante pour les religions ? Souvent, elle peut donner l'impression, en tout cas dans la manière dont elle est appliquée ou pensée ou même revendiquée. C'est-à-dire que quand elle est utilisée d'une certaine manière, en tant que norme, en tant que valeur, elle peut donner l'impression qu'elle est anti-religieuse. Et ici, il y a peut-être une différence entre anti-religieuse et anti-cléricale. Que la laïcité soit anti-cléricale. Alors, je parle sous votre... Enfin, je vous demande, en fait. Hein, mais je dirais que la laïcité, elle peut être... il est tout à fait envisageable qu'elle soit anticléricale dans la mesure où elle s'oppose à la compétence de la religion en matière politique. Donc ça, effectivement, la laïcité est pensée contre les prérogatives ou contre les prétentions de la religion à gérer le politique ou à infiltrer le politique. Donc la laïcité, dans la loi de 1905, elle est effectivement pensée comme non-compétence du religieux en matière politique. Mais par contre, de l'autre côté, elle n'est pas anti-religieuse. Elle est peut-être anticléricale, mais pas anti-religieuse, dans la mesure où elle, justement, c'est Guy Archer qui parle de double médaille, de revers de la même médaille, à savoir que à la fois elle est neutralité pour l'État, mais à la fois... C'est justement cette neutralité pour l'État qui permet la liberté de culte, qui permet à chacun de faire les choix de la vie bonne pour lui. Et voilà. Donc pas du tout anti-religieuse, justement pas. Au contraire, c'est ce qui protège cette liberté de pratiquer sa propre religion.
Juste, Ronald, je voudrais préciser, le terme anticlérical, en fait, peut être ambigu, ouais. Il me semble, parce que la laïcité n'est pas hostile à l'existence des clergés. Parce que si être anticlérical, c'est être aussi l'existence même des clergés, elle ne l'est pas. Mmh. Puisque la laïcité reconnaît l'aspect collectif des religions. Elle les autorise d'ailleurs à avoir des manifestations dans l'espace public, hein, les processions, etc. Dans le respect de l'ordre public, bien évidemment. En fait, elle est moins anticléricale qu'anticléricaliste, on pourrait dire. Je sais pas si c'est un terme vraiment correct. Mais en tout cas, elle est pas opposée à l'existence de clergé. Elle est opposée au cléricalisme, qui est l'attitude des clergés à vouloir s'immiscer effectivement dans la vie politique et à vouloir ériger des normes communes et des normes légales, donc pour tous les citoyens, à partir de référents transcendants, sacrés, religieux. Voilà, donc elle est voilà, si on devait vraiment dire les mots avec précision, elle serait plus anticléricaliste, c'est-à-dire opposée au cléricalisme, c'est-à-dire qu'anticléricale, c'est-à-dire qu'elle n'est pas du tout opposée au clergé, et au contraire, elle laisse les religions s'organiser comme elles le veulent et organiser leur clergé comme elles le désirent.
Oui. C'est vrai qu'il y a une petite note en fait qui est dans l'ouvrage de Bobéro là chez Que sais-je, Histoire de la laïcité en France, et il distingue sécularisation et laïcisation, et il dit très bien en fait que la sécularisation c'est une progressive perte en fait de la religion dans le social. Et la laïcisation, c'est la sortie de la religion du politique. Et on sent bien de ce point de vue que la laïcisation, ça n'est pas en fait un processus hostile à la religion, c'est juste en fait une distinction entre politique et religieux.
Mmh. En fait, la laïcité, elle n'interdit qu'une seule chose. Elle n'interdit que la prise de pouvoir d'un certain ordre religieux dans la politique. Sinon, en fait, elle autorise tout. C'est justement ça l'objectif de la laïcité.
Bien, écoutez, les amis, là, vous y êtes à l'effort, hein, puisque il me semble qu'une chose qui est importante, qui ressort de ce que vous dites, c'est qu'il y a une complexité derrière ce terme, et que les mots sont très importants, dit Marc. Alors, est-ce que vous voulez bien revenir un peu sur ces mots? Par exemple, je poserai la question à Marc de savoir s'il faut parler de la laïcité, ou s'il y en a plusieurs. Est-ce que tu penses qu'il faut décliner ce concept et lui donner finalement des significations différentes?
Alors, ce qui pourrait être dangereux pour le terme laïcité, comme pour beaucoup de termes dans le débat médiatico-politique, ça serait l'essentialisation. Ça serait effectivement de parler de la laïcité comme une réalité intangible, une idée platonicienne qui existerait de toute éternité. Donc, surtout que cette essentialisation, elle est souvent au service d'instrumentalisation politique. On va décider qu'on est le défenseur de la vraie laïcité, par exemple. À la fois, elle a quand même un contenu assez précis qui est donné, en France en tout cas, par la loi de 1905, qui certes peut être interprétable, mais à laquelle on ne peut pas faire dire totalement n'importe quoi. Alors c'est vrai que, par exemple, Jean Bobéro, qu'on a déjà cité, a écrit un livre qui s'appelle « Les sept laïcités françaises », où il montre qu'en 1905, il y a quatre conceptions de la laïcité qui s'opposent, auxquelles sont ajoutées la laïcité ouverte, la laïcité positive, et puis plus récemment la laïcité identitaire. Et là où, justement, hein, Ronald, pour te répondre, là où le sens des mots est important, c'est qu'on peut considérer que par rapport à ce qu'est en tout cas la loi de 1905, la notion de laïcité identitaire est une sorte de monstruosité conceptuelle, et là qui est purement vraiment instrumentalisée politiquement, puisque la laïcité ne peut pas être considérée comme un élément de l'identité française, par exemple, qui serait hostile à telle ou telle religion arrivée plus récemment en France, l'islam en l'occurrence, évidemment. Et quand on parle de laïcité identitaire, en général, c'est pour défendre à la fois la laïcité et les racines chrétiennes de la France, paradoxalement. Alors que la laïcité, c'est pas quelque chose qui a trait à l'esprit français, c'est quelque chose qui a trait à l'exercice de la raison, en fait, qui considère que la règle commune que se donnent les hommes, elle doit être fondée sur le débat argumenté, sur le débat politique, et pas sur, justement, un fondement transcendant, religieux, sacré, auquel on peut adhérer ou pas. Alors que le principe de la discussion citoyenne, en démocratie, forcément, on y adhère de fait. Et voilà, donc, il y a plusieurs interprétations de la laïcité, mais on ne peut pas faire dire non plus n'importe quoi la loi de 1905, comme certains de nos hommes politiques aujourd'hui tentent de le faire, en voulant nous faire croire par exemple que la loi de 1905 serait hostile au port de signes religieux dans la rue, ce qui n'est pas le cas.
On va y revenir. Mais justement, je voudrais demander à Maïssa de revenir un petit peu à ce qu'elle disait au départ. Dans cette relation qu'il y a du religieux et du politique, est-ce qu'effectivement la pluralité des définitions dans la laïcité pose un problème? Est-ce que cela rend finalement cette relation difficile à penser, et particulièrement difficile à penser aujourd'hui? Est-ce qu'il y a une actualité finalement de cette difficulté en fonction de la laïcité?
En fait, j'ai l'impression qu'en fonction de la manière dont on conçoit la laïcité, à savoir soit comme juste comme principe philosophique, comme principe politique d'organisation de la société, et donc comme effet du droit, comme ensemble de règles, comme règles du jeu si on veut, et donc comme ce qui garantit la neutralité de l'État, c'est complètement différent de si on conçoit la laïcité comme projet philosophique global, et donc comme projet politique aussi. Et là, il y a un glissement du principe politique vers la valeur, vers la norme, vers ces valeurs de la République. Maintenant, c'est presque devenu, je pense, j'ai l'impression que c'est liberté, égalité, laïcité.
Oui, c'est bien ce que je voulais que tu nous dises. Hein. Si finalement, tu penses que il y a donc une urgence actuelle à éclairer ce rapport entre le politique et le religieux en fonction précisément d'une certaine actualité. Donc est-ce qu'il faut renoncer à un projet général de la laïcité sur le plan philosophique pour en fait se mettre au service d'une urgence politique actuelle ?
J'ai l'impression que la sagesse de la loi, notamment de la loi 1905, va du côté du principe politique. Et qu'en fait, quand on prend un projet global, on a ce que Balibar a écrit un article dans Libé le 29 août 2016. Et il parle justement de cette laïcité identitaire dont Marc parlait. Cette dérive, lui aussi, il parle de monstre, hein, de monstre de la laïcité ou de concept monstrueux. Et en fait, il montre que ça, finalement, quand on conçoit cette laïcité exclusive, cette nouvelle laïcité, quoi, répressive, celle de la loi, des lois. Alors, la loi contre la burqa qui interdit le port de la burqa n'a pas été prise au nom de la laïcité. Hein, de toute façon, ça, c'est important qu'on le rappelle, parce qu'il y a pas mal de confusion. Hein. Mais par contre, celle qui a été prise au nom de la laïcité, c'est la loi de 2004 sur le port du voile à l'école. Et donc, quand je reviens à Balibar, il parle de cette identité, ou cette identité entre laïcité et identité de l'État, et finalement, qui confine à un communautarisme d'État, et qui est très dangereux, parce que finalement, c'est une laïcité qui exclut notamment une partie de la population, et notamment, là, c'est vraiment l'islam qui est visé. Hein,
entendu. Et donc, Charlotte, est-ce que, de ton point de vue, cela prescrit finalement une façon de se battre pour la laïcité qui serait typiquement la nôtre, celle des philosophes publics?
Il est clair que une des questions qu'on s'est posées, c'est donc faut-il défendre la laïcité? Si défendre la laïcité, c'est lutter contre la religion, c'est pas faisable. C'est pas faisable et c'est pas souhaitable. Par contre, il y a un combat peut-être qui vaut la peine d'être mené, c'est de rappeler le sens de la laïcité, c'est-à-dire de se dire, en effet, comme l'a souligné Maïssa, la laïcité au départ, c'est un principe politique qui a été conçu pour que les gens puissent croire et pratiquer. Donc moi, il me semble en fait hein, que c'est cette loi-là qu'on a intérêt à défendre. Voilà.
Et nous, en fait, en tant que philosophe, c'est peut-être justement la réflexion philosophique qui va permettre de recréer du lien entre toutes ces choses qui sont en train de s'exclure. Parce qu'au départ, ce que je disais tout à l'heure, en fait, la laïcité n'interdit qu'une seule chose. Et on, petit à petit, pour permettre, parce que ça met des règles en place, en fait, il y a des choses qui sont interdites au nom de la laïcité et qui ne sont pas interdites. Et en fait, la philosophie peut permettre à des religions qui ne parviennent pas à s'entendre, par ce principe de laïcité, mais monté d'un point de vue philosophique, à s'écouter, à s'entendre, à rentrer en contact, et en fait à créer de nouveau du lien social, alors que c'est l'inverse qui est en train de se produire.
En fait, oui, peut-être pour répondre un peu plus précisément à ta question, il me semble qu'il y a toujours eu en fait une distinction entre le défenseur de la laïcité et puis le laïcard. Hein. Derrière ce terme de laïcard, on entend quelqu'un qui, en effet, aurait des comptes à régler avec la religion et qui considère la religion comme une profonde aliénation. Ce combat, en fait, c'est-à-dire cette idée que la liberté, la vraie, elle serait du côté de l'athéisme. Elle est, il me semble, intéressante, mais elle est réductrice. Et elle n'est pas, en tout cas, le point de départ de cette loi de 1905. Donc, il faut se rappeler peut-être que il peut y avoir, en fait, une réflexion qui est menée sur la dangerosité de la religion. C'est une réflexion qui est une réflexion philosophique tout à fait, à mon avis, fondamentale. Mais on ne doit pas faire de la laïcité un instrument pour lutter contre la religion.
Entendu. Moi, ce que je retiens, c'est que s'il y a un apport philosophique immédiat, c'est que les distinctions habituelles, et en tout cas les oppositions qui ont été toujours celles que l'on a rapportées à la laïcité, ne sont pas satisfaisantes. Marc, tu nous avais parlé dans nos discussions d'un dépassement de ces oppositions classiques et de ces dualismes qui ne sont pas satisfaisants. Est-ce que tu peux nous donner quelques exemples de différences qui seraient plus pertinentes pour toi?
Bah, C'est pas pour moi, hein, c'est surtout revenir à l'esprit de la loi. Alors la loi, nous, en tant que philosophe public, on n'est pas là pour la défendre en tant que telle, puisqu'on est là plutôt pour poser des questions, et on est là aussi pour être à l'écoute. Enfin, je crois que là où on était tous d'accord quand on a débattu entre nous sur la laïcité, c'est que ce qui serait vraiment très dangereux et contre-productif, pour le coup, c'est d'arriver vers les gens, que ce soit nos élèves d'ailleurs, ou que ce soit les citoyens, quand on discute avec eux, en ayant un catéchisme républicain, en voulant leur faire aimer ou adhérer... de manière un petit peu péremptoire et un petit peu dogmatique, pour le coup, à tel ou tel principe. Donc l'idée, c'est plutôt de recueillir des paroles, de recueillir des questionnements, et effectivement, peut-être de procéder à quelques distinctions conceptuelles. Une distinction qui semble urgente aujourd'hui, par exemple, c'est revenir au sens originel du mot « privé » dans la loi de 1905, hein, puisque, effectivement, si la loi de 1905 dit que la religion est ramenée à la sphère privée, c'est pas du tout à la sphère intime, puisque le mot « privé », en français, a plusieurs sens. Hein. « Privé », c'est ce qui ne relève pas de la compétence de l'État. Cela, une école est privée, une entreprise est privée, une association est privée, etc. Et puis, c'est ce qui relève de l'intime, du personnel, voilà, de quelque chose qui se ferait à l'intérieur du foyer, voire de la conscience de l'individu. Donc là, il y a un glissement, parce qu'effectivement, la loi de 1905 dit « les religions sont des institutions publiques dans leur mode d'expression collectif, elles sont visibles, mais par contre, elles sont privées du point de vue du droit. » C'est-à-dire qu'elle dit simplement que les rabbins, les pasteurs et les prêtres, à l'époque, ne seront plus salariés de l'État. Mais aujourd'hui, effectivement, on entend dans les discours politiques un glissement où le privé relèverait de l'intime, et on voudrait ramener les gens, en fait, dans une pratique non ostentatoire, discrète, et alors que ce n'est pas du tout l'esprit de la loi. Alors, bien sûr, la loi, on peut la discuter. D'autant plus que, pour revenir à une distinction de Maïssa tout à l'heure qui me semble intéressante, il y a d'un côté le juridique, on disait, et de l'autre le philosophique. Bon, ils se croisent quand même. Il me semble qu'ils se croisent notamment dans l'approche scolaire de la laïcité, puisque on ne peut concevoir un État laïque, c'est-à-dire un État où la loi est créée par la discussion rationnelle et argumentée des citoyens, que si chaque citoyen a la capacité intérieure à mettre à distance ses croyances. C'est-à-dire que si un croyant dérive vers le fanatisme et persuadé que sa loi, que la loi de sa religion, c'est la bonne, et que comme c'est la bonne, il peut l'imposer à tous, ben l'État ne peut pas être laïque, puisque l'État, il va être le résultat de la volonté générale, c'est-à-dire du croisement des volontés des individus. Donc là aussi, voilà, je pense que s'il y a quelque chose aussi de philosophiquement à faire au niveau de la laïcité, c'est d'abord, bon, on l'a dit, hein, de réfuter les amalgames, laïcité identitaire, les faux concepts, de préciser le sens du mot privé, comme je viens de le faire très rapidement, mais aussi d'expliquer, de travailler, parce qu'il y a aussi quand même un réveil du fanatisme religieux aujourd'hui dans nos sociétés, il faudrait être aveugle pour ne pas le voir, voir en quoi la philosophie, peut-être les philosophes publics, peuvent fournir à certains les moyens intellectuels de construire cette distance intérieure. Il ne s'agit pas de renier sa croyance, il s'agit simplement de mettre sa croyance personnelle assez à distance pour pouvoir se dédoubler, et quand on est citoyen, donc quand on participe à l'élaboration de la loi commune, de mettre cette croyance de côté.
Oui. Oui. Alors moi juste, je voudrais apporter une toute petite précision aussi.
Tu es là pour ça.
Ouais, c'est important, je trouve, de pas confondre notre métier d'enseignant et puis notre vie de citoyen. Et là où, par exemple, cette loi de 2004 sur le voile, elle peut avoir une certaine pertinence. En tout cas, on peut la défendre comme la critiquer. Hein, beaucoup d'entre nos élèves la critiquent, ce que je comprends. Mais son sens. Et là, parce que justement, on a affaire en tant qu'enseignant à des gens qui sont mineurs et qui sont presque pas responsables de leurs croyances, ou en tout cas, on peut travailler dessus ensemble et les mettre à distance. Mais par contre, à partir du moment où on s'adresse de citoyen à citoyen, il me semble que notre travail est pas... qu'il s'agit d'accepter aussi un certain nombre de postulats des autres et des croyances, même, alors fondamentalistes, justement, il faudrait peut-être toute une émission là-dessus, et là, c'est le point nodal, c'est le point critique, hein, qui est intéressant, il faudrait qu'on s'y...
Oui, c'est un peu quand même le noyau dur de ce que nous sommes en train de dire, parce que ce que je retiens vraiment dans cet échange, c'est que finalement, l'esprit de la laïcité, c'est plutôt le caractère discutable de ce qu'elle propose. Et au fond, c'est un peu cette idée qui est intéressante pour nous, c'est de soumettre ce contenu politique, ces valeurs, à la critique. Et est-ce qu'il y a finalement discontinuité entre ce qui se produit même dans les classes et ce qui se produit dans la cité de ce point de vue-là? Est-ce que finalement ce n'est pas toujours une façon de montrer que le message laïque est précisément celui qui admet la discussion, contrairement à d'autres projets qui, eux, sont beaucoup plus dogmatiques?
Oui, mais l'espace de l'école permet le rapprochement entre justement toutes les religions différentes et sort les individus de leur entre-soi du milieu dans lequel ils vivent. Et peut-être qu'il y a certains individus qui, notamment quand ils sont mineurs, sont pas capables de prendre du recul par rapport à leur milieu familial, par rapport à leur milieu. Et la laïcité d'ailleurs, doit leur donner la possibilité de choisir en raison, en conscience, ce qu'ils ont envie de penser sur leur religion, sur la religion des autres, sur la laïcité, etc.
D'accord. On voit donc à quel point finalement les questions qui sont mises en avant habituellement pour parler de la laïcité sont de fausses questions. Par exemple, les questions très médiatiques du burkini, du voile, qu'est-ce qu'on peut en dire? Est-ce que quelqu'un ici pourrait réagir à cette idée? Est-ce que finalement ce sont des questions bien posées ou est-ce qu'il y en a des meilleures?
Moi, il me semble qu'on revient sur cette idée d'instrumentalisation. La laïcité aujourd'hui est présentée en effet à des gens qui sont adultes et à des citoyens comme étant non pas simplement une loi mais une valeur et parfois on sent se glisser une forme d'ethnocentrisme, c'est-à-dire qu'on vient dire à certaines communautés que leurs croyances en fait sont trop archaïques, ne sont pas les bonnes, et sur la question du burkini par exemple, on a pu entendre en fait là aussi qu'il y avait une bonne liberté, la liberté de la femme nue, et puis une forme de comportement rétrograde et archaïque. Et en fait, moi, quand je vois ce fonctionnement-là dans la bouche de nos politiciens ou certains concitoyens, j'ai l'impression, en fait, qu'on revient à ce discours sur du 19e siècle.
Donc, c'est une question mal posée.
Oui, question mal posée et utilisation malsaine, en fait, de la notion de laïcité.
Et quelles seraient les questions bien posées?
En fait, juste, moi, j'ai une piste. En revenant à la distinction entre sécularisation et laïcité, je voudrais citer Jean Bobéro. Alors, je crois que c'est dans La laïcité falsifiée, où il parle de chauffard de la laïcité, en parlant de l'action du gouvernement. Et en fait, il dit « Vouloir imposer la sécularisation par la laïcité est aussi contre-productif que vouloir imposer la démocratie par la guerre et l'invasion. » Alors, c'est intéressant parce que finalement, cette laïcité de combat qui est menée en ce moment par aussi bien le gouvernement ou une partie de la population, c'est dommage parce que finalement, le processus, Bobéro le montre, Olivier Roy aussi, le processus de sécularisation, notamment chez les musulmans, il est en marche. Donc ici, on a une action qui est effectivement contre-productive et il ne faut pas tout mélanger. En prenant une laïcité de combat, on laisse une communauté se raidir et puis se replier. On provoque exactement l'inverse.
Donc un projet inverse, oui.
Oui,
donc,
c'est ça.
Qui favorise plutôt la fracture sociale que le lien qui est... qui est censé donc se produire par un bon discours sur la laïcité, en tout cas une bonne pratique qui lui serait liée. Marc,
Pour terminer, un petit mot, mais effectivement, quand tu disais comment on pourrait transformer une question mal posée en une question mieux posée, la question pour ou contre le burkini qui nous met face à une alternative un peu intenable, je suis ni pour ni contre le burkini comme ça, je peux pas cocher une croix, pour contre face à une question comme celle-là. On pourrait la transformer en peut-on forcer quelqu'un à être libre, parce que la question c'est quand même ça, c'est ce que tu disais, Charlotte, c'est-à-dire il y aurait la bonne liberté, c'est la liberté d'être en maillot de bain ou en bikini, et puis elle aurait la mauvaise qui est d'être en burkini. Et quand on pose la question peut-on forcer quelqu'un à être libre, d'abord on va être obligé philosophiquement de se demander si c'est légitime ou pas déjà, et puis si on a la bonne conception ou pas de la liberté, et puis si on va pas être contre-productif. Et voilà, il me semble que transformer ces questions là,
et puis est-ce que la liberté c'est enlever le burkini,
c'est... Oui, voilà c'est ce que je disais, est-ce qu'on a la bonne vision de la liberté, est-ce qu'être libre c'est enlever le burkini ou pas, quand on sait qu'en fait les études sociologiques les plus sérieuses montrent qu'il y a une très grande diversité de motivations par rapport au port du voile, le port du burkini, etc. Mmh. Donc ça, c'est la réalité. C'est une réalité qui est complètement occultée par une question pour ou contre, bien évidemment.
Oui. Oui,
donc
mais
voilà,
faut...
nous, en tant que philosophe public, c'est vrai qu'on...
Un dernier mot.
Voilà, on veut juste amener de la complexité.
En fait, il faut juste garder la liberté de pouvoir retirer le burkini aussi.
Bien sûr.
La question, aussi, question un peu nietzschéenne, là, ce serait, en fait, moi, il me semble, c'est ce qu'on vient de faire, que veut celui qui défend la laïcité, quoi. C'est-à-dire qu'on sent que ça peut être extrêmement malsain aujourd'hui.
Écoutez, quelques prolongements de ces réflexions. Vous pourrez les trouver facilement en recherchant sur un moteur de recherche les philosophes publics, et vous tomberez sur notre blog où un texte concernant la laïcité a été déposé. Et puis vous pourrez aussi prolonger cette réflexion en vous rendant au Tursky le 26 avril à 19h pour un débat animé par les philosophes publics sur la question « Peut-on parler calmement de la laïcité ?» Merci à tous donc à nos auditeurs et à la prochaine émission.